Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Les pourparlers de Nairobi pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo se clôturent ce lundi dans l'après-midi. Après 7 jours d'intenses consultations, un rapport final est attendu. Ce rapport devrait comprendre la compilation des différentes résolutions et recommandations issues des échanges directs. Et puis la province de l'Équateur subit les affres des inondations ces derniers jours à la suite des pluies diluviennes qui s'abattent au quotidien sur la région. Radio Okapi se penche sur cette question dans une série de reportages. Premier numéro dans ce journal, la cartographie des zones sinistrées par ces inondations. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Marie-Pierre Poirier. Elle est la directrice régionale UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest. Elle revient sur l'apport du projet Résilience de l'UNICEF au sein des communautés. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le troisième round du processus pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo s'est clôturé ce lundi dans l'après-midi au Safari Park Hotel de Nairobi au Kenya. Mais à quelques heures de la clôture, Martial Papi Mukeba, quelques activités se tiennent encore sur place.
Cet avant-midi, les différentes délégations congolaises ont eu droit à des exposés. Le premier est celui du commandant des troupes de l'EAC déployées en RDC. Le général Nyefunyanga a réaffirmé l'engagement de ses troupes à travailler pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Il a par la suite déclaré, je cite, « La rébellion du M23 ne prendra jamais la ville de Goma ». Fin de citation. Dans le deuxième exposé, l'ambassadeur kenyan Mohamed Goyo a partagé son expérience sur la résolution des conflits. Il a insisté sur les dialogues entre les parties en conflit. Cet après-midi va se tenir une plénière en présence de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur de l'EAC pour le processus de Nairobi. Il faut préciser qu'après 7 jours d'intenses consultations, un rapport final est attendu. Ce rapport devrait comprendre la compilation des différentes résolutions et recommandations ici des échanges directs. Depuis Nairobi, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Pendant 7 ans sur le terrain au Nord Kivu, une accalmie a régné tous les week-ends jusque ce lundi sur les lignes de front entre les rebelles du M23 et l'armée de la République démocratique du Congo. Selon les sources sur place, aucun tir n'a été entendu autour de Kishishe ainsi que dans le groupement de Bishusha, chefferie de Bwito et Axe Kishasharu, Nyamilima, chefferie de Bwisha dans le territoire de Rutshuru. Même chose sur l'axe Kibumba, territoire de Nyiragongo. Ces sources affirment que des inquiétudes règnent cependant dans les agglomérations proches de ces lignes de front. C'est notamment à Kichanga, Kibirizi et Nyamilima dans le territoire de Rutshuru. Cela est dû à la présence de multiples groupes armés qui se regardent en chien de faïence avec les rebelles du M23 dans ces zones, indique ce source. Et puis, Monseigneur du diocèse catholique de Butembo-Beni s'est dit très inquiet de l'ampleur que prend la situation sécuritaire dans la ville de Butembo. Une situation caractérisée par des arrestations des civils et des viols imputés aux hommes en uniforme. Il a dit devant la presse ce dimanche à Butembo, après la marche pacifique des fidèles catholiques, d'où son appel à la libération immédiate et sans condition de ces derniers et aux autorités de bien jouer leur rôle dans la protection des civils. Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek est ici dans ses propos recueillis par Gulen Kassassia.
Nous vivons dans une atmosphère de peur parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver n'importe où dans la ville et qui est à la base de ça. Donc nous ignorons. C'est comme si, bon, quand on veut, on prend son arme, on commence à tirer et puis là où il y a eu un coup de feu, il y a toujours des gens tranquillement chez eux qui sont malheureusement victimes. Et dans cette furie, cette violence, ceux qui ont le pouvoir peut-être de ramasser n'importe qui, celui qu'on trouve sur la route, on le prend, on l'amène à Kangwai, à savoir si vraiment la personne mérite d'être là, nous demandons que ces personnes soient libérées. Donc il est inconcevable de voir des enfants en uniforme qu'on les amène à prison ou un enseignant qui allait donner cours, on le ramasse, que ces personnes soient libérées mais sans condition. Et on demande à ceux qui ont le pouvoir de le faire, on a l'auditorat ici, qu'ils s'impliquent dans cette affaire parce que ça les concerne. Il y aurait même eu des viols, ce qui est très grave. Nous sommes préoccupés par la guerre au sud de la province. Il ne faut pas venir commencer la guerre à
Entre-temps, en Ituri, l'évêque du diocèse catholique de Bunia dénonce le pillage des ressources de la province par des étrangers et certains Congolais. Selon Mgr Dieudonné Ouringui, ces derniers profitent de la guerre pour s'enrichir illicitement pendant que la population vit dans la misère. Il a fait cette déclaration dimanche dans son allocution à la tribune de Bunia dans le sillage de la marche pacifique initiée par la CENCO. Ce prélat catholique lance un appel au gouvernement à assumer ses responsabilités pour arrêter cette hémorragie. Il demande également à la population de se réveiller pour revendiquer ce droit en utilisant des moyens pacifiques. Le Mgr Dieudonné Ouringui est au micro d'Isaac Remoyope.
Nous tous, peuple congolais, ne croisons plus les bras. Avec les moyens pacifiques, nous sommes capables de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays. Pendant que nous nous entretuons entre nous, ce sont les autres qui profitent de nos richesses. De l'Ituri, 60-100 véhicules montent sur les bateaux pour aller à Kinshasa. Ça, nous avons vu de nos propres yeux. Les Chinois qui creusent de l'or depuis Nizi jusqu'à Mongualou. Mais l'argent part où? Vous passez là, vous les interrogez. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a envoyé? Ils vous montrent des lettres signées par les gouvernements. Alors jusqu'à Zaka comme ça. Le gouvernement national, tout comme provincial, doit prendre ses responsabilités en main. Peuple iturien, et nous tous ici, réveillons-nous. Les évêques vous invitent à ne plus dormir.
Autre nouvelle, au sud Kivu, des dégâts matériels et humains sont de nouveau enregistrés dans le territoire de Kalehe suite aux pluies diluviennes de ces derniers jours. La société civile de Kalehe rapporte qu'une personne est morte et une centaine de maisons emportées par les eaux de pluie. Un bilan qui vient s'ajouter à bien d'autres dégâts enregistrés toujours dans le territoire de Kalehe ces dernières semaines. Des infrastructures routières et scolaires sont totalement endommagées. Aussi, toutes les routes rendues impraticables. Le territoire de Kalehe est désormais enclavé. Et puis, environ 2 mois, les inondations continuent de sévir dans plusieurs localités du Grand Équateur. Elles font suite à des pluies diluviennes qui s'abattent au quotidien sur la région. Une pluviométrie assez élevée à cause notamment de sa position de part et d'autre de la ligne de l'Équateur. Une situation consécutive également au changement climatique. Nous ouvrons à cet effet une série de reportages liés à cette catastrophe naturelle qui affecte des milliers de populations avec des conséquences humanitaires graves. D'abord, notre correspondant régional Paul Richard Malengela nous brosse la cartographie des zones sinistrées par ces inondations.
Outre le fleuve Congo, ces inondations concernent aussi toutes les rivières qui traversent les 5 provinces du Grand Équateur, notamment l'Ubangi, la Mongala, la Ruki, la Chwapa, la Busira, l'Ikilimba, l'Angiri et j'en passe. Des témoins affirment que le long de la rivière Ubangi, par exemple, des milliers de riverains sont sinistrés à Yakoma, les littorales des localités de Mobaimbongo, Zongo, Libenge, Dongo, Lilanga, jusqu'à l'embouchure à Malangé, à 100 km en aval de Mbandaka, ne sont pas en reste. Même situation à Kongo, Mobeka, Makanza, où plusieurs riverains se sont déplacés, leurs habitations étant englouties sous les eaux. À Lolo, sous la rivière Busira, un des marchés qui approvisionne la ville de Mbandaka a été déplacé à plus de 3 km sous la terre ferme. Il faut ramer dans des pirogues sous les arbres pour aller s'approvisionner, indiquent des témoins. Dans la cité de Bongandanga, plusieurs marchandises gardées dans des entrepôts au port de Bongandanga ont été avariées, indique le président de la société civile. Enfin, l'administrateur du territoire de Libenga, qui a évalué plus de 1000 familles sinistrées, annonce une baisse progressive des eaux, mais redoute que les conséquences vont demeurer encore plus longtemps. Bandaka pour Chamalengue, la radio Okapi.
Et puis en plus bref, le cadre de concertation de la société civile des Moba de la province du Tanganyika dénonce l'usage des filets à mailles prohibées. Les militants de cette structure citoyenne ont organisé une marche le samedi dernier. Ils ont lu un mémorandum devant les autorités du territoire. Dans leur mémo, ils demandent aux 4 pays qui entourent le lac Tanganyika de protéger les espèces des poissons. En réaction, l'administrateur du territoire des Moba a rassuré les militants de la société civile de tout mettre en œuvre pour décourager les pêcheurs qui font usage de ces filets prohibés. Et puis, dans le Congo central, beaucoup d'opérateurs économiques continuent à violer le décret du Premier ministre portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur le produit de première nécessité. Ces derniers maintiennent la structure des prix d'avant la signature de ce décret. suspendant la perception de la TVA. Ce constat amer a été fait par le ministre provincial de l'économie. C'était au cours des opérations de dissuasion qu'il a menées pendant 2 jours dans les grands magasins de Matadi. Pour le ministre Roger Nimi, ces opérateurs économiques sont tout simplement des escrocs puisqu'ils volent la population. Reportage Nana Plurichimambu.
Partout où il est passé, le ministre provincial du Congo central en charge de l'économie a fait le même constat. Les prix des produits alimentaires de base n'ont pas baissé. Selon lui, ils ne correspondent pas à la structuration des prix devant être appliqués après la suspension de la TVA, même si dans leur facture il est marqué 0 TVA. Par exemple, un sac de riz qui normalement après la suspension de 16% de la TVA devait être vendu à 37 200 francs est maintenu à 44 000 francs comme avant. Le ministre Roger Nimi n'a pas hésité de qualifier ces commerçants d'escrocs car déterminés à accentuer la misère de la population.
La TVA n'a rien à voir avec les capitaux de tous ces opérateurs économiques. La TVA c'est une taxe de l'État congolais et l'État congolais qui reçoit l'argent de cette taxe-là a dit « je donne cadeau ». À la population pour bien fêter. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Ils veulent maintenant voler la population derrière la suspension de cette TVA. Les prix avec lesquels ils vendaient les produits avant la suspension de la TVA, ce sont les mêmes prix que nous venons de constater sur le terrain. C'est là qu'ils ne vont pas élaguer la TVA, je vous dis, c'est moi le ministre de l'économie, je les ferai arrêter pour escroquerie.
Si rien ne change, le ministre promet de sceller tous les magasins des récalcitrants cette semaine. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le 62e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est achevé dimanche soir 4 décembre. L'organisation demande la libération avant le 1er janvier de 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. Dès le début de la rencontre, les chefs d'État de la CEDEAO ou leurs représentants se sont discrètement retirés dans une salle de la présidence nigériane pour un huis clos intégral. Ils ont pris la décision de taper du poing sur la table et de demander au Mali avant le 1er janvier 2023, la libération des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako depuis plus de 4 mois. Sinon, des sanctions seront prises selon la commission. Et puis, Assimi Goïta a abrogé le décret nommant un colonel premier ministre par intérim, ouvrant la voie au retour de Joguel Kokala Maïga à la tête du gouvernement, ont annoncé les autorités dimanche soir. Joguel Kokala Maïga, un civil et vétéran de la politique, nommé premier ministre en juin 2021, a été contraint de prendre ses distances en août après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 64 ans. Le numéro 1 malien, le colonel Assimi Goïta, avait nommé par décret le 21 août dernier premier ministre par intérim le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, par ailleurs porte-parole du gouvernement.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est la directrice régionale UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest. Marie-Pierre Poirier a visité donc ce samedi le centre de santé de Mouirama dans la zone de santé de Kanyola et le centre de formation d'Izégué dans le territoire de Walungu au sud Kivu. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du projet Résilience mis en place par 3 agences, UNICEF, PAM et FAO. Marie-Pierre Poirier revient sur l'apport du projet Résilience de l'UNICEF au sein de communauté. Elle répond aux questions de Rachel Kessé Mbango. Suivez.
Marie-Pierre Poirier, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous emmène en visite à Bukavu aujourd'hui?
Bien, nous avons un bureau sous-national ici qui fait un travail formidable pour améliorer la situation des enfants dans leur province. Et ce qui était très intéressant, c'est que nous travaillons sur un concept un peu complexe, la résilience, avec 2 autres agences des Nations Unies, le PAM et la FAO. Et nous faisons ça dans des zones qui sont défavorisées, où il y a plusieurs années, beaucoup de déplacements liés au conflit. Ce sont des zones où les indicateurs sociaux pour l'enfance sont problématiques. On note en particulier beaucoup de malnutrition des enfants. Donc il y a beaucoup de besoins, les ressources sont limitées, et l'idée c'était de voir comment, aux côtés des acteurs gouvernementaux au niveau centralisé, en mobilisant aussi des ONG locales, des partenaires locaux qui connaissent vraiment bien le milieu, comment on peut travailler avec des synergies pour faire une vraie différence pour les enfants.
Vous avez visité ce samedi la zone de santé de Kanyola, le territoire de Walungu, où vous avez notamment échangé avec des familles sur leur expérience en rapport avec le bien-être des enfants. En gros, quel est l'impact de votre visite par rapport aux constats que vous avez faits sur terrain?
C'était très intéressant d'arriver dans le centre de santé et de discuter avec l'infirmier titulaire. Et donc, on voyait comment, petit à petit, les mamans étaient informées de faire le suivi nutritionnel de leurs enfants et comment, là, l'UNICEF entre en jeu si jamais l'enfant est vraiment très mal nourri ou le PAM si la situation est modérée. Et c'était très encourageant que, malgré les difficultés, le nombre d'enfants qui étaient référés a diminué. Ça veut dire que la malnutrition diminue. Les résultats sont là, il faut maintenant peut-être les passer à l'échelle parce que il y a quand même encore beaucoup d'enfants qui ont besoin d'un accompagnement, beaucoup de mamans qui ont besoin d'être formées. Et l'idée, c'était de mobiliser toute la société. Vous voyez qu'à très court terme, c'est pas quelque chose qui prend des décennies. Avec une information toute simple, avec une mobilisation, on peut vraiment faire une différence pour les enfants.
Voilà, vous avez visité, vous avez eu des échanges, notamment avec des jeunes. Pour quelle fin avez-vous effectué cette visite?
L'idée avec la visite pour les jeunes, c'est que les temps sont durs. Beaucoup de jeunes ne trouvent pas de travail et à cause de la situation économique vulnérable de leurs parents, certains ne peuvent pas continuer l'école très longtemps. C'était très frappant que la décision de Son Excellence Monsieur le Président de mettre l'école primaire gratuite a eu un impact, hein, parce que la plupart de ceux avec qui on a parlé sont allés à l'école primaire. Maintenant, quand ils arrivent à la fin, la famille ne peut pas continuer à financer les études. Donc là, le projet était de leur donner des compétences, mais des compétences qui pouvaient vraiment leur mettre le pied à l'étrier pour qu'ils puissent après avoir un métier. On a visité un atelier de menuiserie. En 4 mois, elles étaient déjà en train de faire un banc magnifique. C'est l'exemple que ces formations ont des résultats. On a aussi visité un autre qui était un atelier de couture avec des créations de mode très jolies. J'ai d'ailleurs acheté une robe moi-même. L'idée, c'était que ce projet aide la résilience au niveau personnel, c'est-à-dire donne des capacités aux jeunes pour qu'ils puissent s'occuper d'eux-mêmes, s'occuper de leur famille et contribuer à la société.
Vous avez effectué votre visite. Quelles recommandations faites-vous à vos équipes ici sur place?
Bon, la première recommandation, c'est bravo pour l'effort, bravo pour les résultats. Et maintenant, comment on va passer à l'échelle? Les besoins sont énormes, la motivation des populations est là. C'est clair que toutes ces personnes défavorisées n'attendent que l'opportunité, le petit coup de pouce qui va les aider à aller de l'avant. Et tous ces jeunes et toutes ces familles sont prêtes à faire leur partie. Il faut donc qu'on apprenne les leçons de ce projet, qu'on apprenne aux mamans à détecter la malnutrition, à prendre action tout de suite, qu'on apprenne aux papas à faire équipe avec leur épouse pour s'occuper des enfants et qu'on soit aux côtés du gouvernement pour que ces expériences qui sont un petit peu innovatrices mais qui ont le pouvoir d'être transformatrices puissent être vraiment soutenues, qu'on passe à l'échelle avec une durabilité dans le temps, ce qui fait que même si les soutiens diminuent, les populations peuvent prendre soin d'elles-mêmes. Et c'est tout le message de cette visite. On apprend les leçons pour améliorer les choses et on passe à l'échelle.
Marie-Pierre Poirier, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal, mise en onde par Jean-Claude Nsiala. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République et même à Nairobi au Kenya, sous la coordination de Noëlla Luzitu Kabambi et la supervision de Martin Sebujangwe. Merci également à vous pour votre particulière attention.